découvertes musicales, entrevues, spectacles et plus. Soyez à l'écoute tous les dimanches à 20h au 88.3 FM ou sur profilprog.com.
Amateurs de rock, le samedi soir, c'est à CKIL ça se passe avec l'émission Évasion Rock. Je vous y invite le samedi 21h.
Bonjour, ici Bruno Laberge pour CKIA FM et voici votre bulletin d'information du vendredi 15 mars 2024. La filiale Infra de la Caisse de dépôt et placement du Québec poursuit ses séances de rencontres avec différents groupes et organismes dans le cadre de son mandat d'analyse du transport structurant et de la mobilité dans la région de Québec. Alors que l'aéroport de Québec et Via Rail ne faisaient pas partie des invitations initiales, la Caisse a finalement décidé de les rencontrer dans les derniers jours. Tout ce qui peut amener plus d'aisance pour connecter la ville à l'aéroport, on est pour ça. Si jamais un jour le tramway devait venir à l'aéroport, on sera fin prêt à l'accueillir, affirme Stéphane Poirier, PDG de l'aéroport. Les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches déplorent 35 accidents mortels en 2023, comparativement à 27 l'année précédente. Selon le bilan de la Sûreté du Québec, la région de Québec est la seule, avec l'Abitibi, à connaître une hausse du nombre de victimes. Sur le réseau municipal de Québec aussi, les collisions mortelles sont en hausse. Les principales causes d'accidents mortels demeurent la conduite imprudente et les excès de vitesse, la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, les drogues ou la fatigue, et l'inattention ou la distraction. Il est à noter que près de 50 ans après l'adoption d'une loi rendant obligatoire le port de la ceinture de sécurité, 20% des victimes décédées dans des collisions routières ne portaient pas leur ceinture. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche se déroule la première édition du Salon du vélo de Québec au Centre des foires d'Exposité. Cet événement se consacre au monde du vélo, mais aussi du cyclotourisme. De nombreuses activités sont organisées, notamment une piste d'essai pour inviter à la découverte. De nombreux exposants des salons de vélo de Montréal et Gatineau, Ottawa, demandaient de présenter aussi un salon à Québec, confirme Yves Martineau, porte-parole du Salon du vélo de Québec. Durant cet événement, plusieurs détaillants, distributeurs et fabricants seront présents. De plus, plusieurs régions touristiques et des agences de voyage proposeront des événements avec des parcours cyclables un peu partout dans le monde, précise M. Martineau. Ça commence donc aujourd'hui à compter de midi, mais dès 10h pour samedi et dimanche. Et c'est à Exposité. C'est ce qui complète cette édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, passez une agréable journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Toute simplicité.
Les meilleurs livres ne sont pas lus, même pas par ces gens que l'on dit bons lecteurs. À quoi se résume la culture à notre bonne ville de Concorde? On y rencontre, à quelques très rares exceptions près, aucun goût pour les meilleurs ou les très bons livres, y compris ceux de la littérature anglaise, dont tous les mots sont pourtant accessibles à chacun. Même les hommes qui sont allés à l'université, qui ont reçu ce que l'on appelle une éducation libérale, ici comme ailleurs, ne connaissent que fort mal ou pas du tout les grands classiques anglais. Quant aux trésors écrits de la sagesse humaine, les œuvres classiques et les bibles antiques, qui sont accessibles à tous ceux qui veulent bien se donner la peine d'y regarder, on ne peut que constater qu'extrêmement peu de gens sont prêts à faire tant soit peu d'efforts pour se les approprier. Je connais un bûcheron d'âge mûr qui achète régulièrement un journal français, non pas pour lire les nouvelles, car il était au-dessus de ça, mais pour entretenir sa langue, étant Canadien de naissance. Et lorsque je lui demande quelle serait pour lui la meilleure chose qu'il pourrait faire en ce monde, il me répond qu'en plus d'entretenir son français, ce serait d'entretenir et enrichir son anglais. C'est à peu près le maximum de ce que les hommes qui sont allés à l'université font ou aspirent à faire d'ordinaire. Ils achètent pour cela des journaux en anglais. Combien un homme qui viendrait de lire un des meilleurs livres anglais qui existent pourra-t-il trouver d'autres hommes avec qui en parler? Ou bien, imaginez qu'il vient de lire dans sa langue d'origine un classique grec ou latin dont la renommée a atteint jusqu'aux oreilles des illettrés. Cet homme-là ne trouvera absolument personne avec qui en parler et ne pourra faire autrement que de garder le silence à ce sujet. En réalité, vous aurez même du mal à trouver un professeur de nos universités qui, ayant maîtrisé les difficultés de la langue de tel grand poète grec, en aurait qui ait pareillement maîtrisé les difficultés de la pensée et de la poésie et aurait de surcroît une quelconque sympathie à accorder aux lecteurs éveillés et héroïques. Quant au texte sacré, Bible de l'humanité, quel homme en cette ville peut m'en citer ne serait-ce que les titres? La plupart des gens ignorent que d'autres nations que les Hébreux ont eu leurs écritures. Un homme, n'importe quel homme, sera prêt à faire un long détour de son chemin pour ramasser une pièce de 1 $ en argent. Et là, nous avons des mots en or prononcés par les hommes les plus sages de l'Antiquité, dont la valeur fut sans cesse confirmée par les hommes les plus sages de toutes les générations suivantes. Malgré cela, nous ne lisons pas.
Seront publiés, nous serons.
Alors, bienvenue à Toute Simplicité. C'était Je rêve à demain, Richard Séguin. Le retour à Walden. Auparavant, je vous ai lu un extrait de Walden, comme d'habitude, de Henri-David Thoreau. Et on fait allusion dans le passage que je vous ai lu d'un Canadien, d'un bûcheron canadien. Dans Walden, il y a à peu près pas de personnage. C'est Thoreau qui raconte un peu sa vie, ses réflexions. Et l'exception, c'est le bûcheron canadien français. Et à quelques endroits dans Walden, il s'appelle Terrien, ce bûcheron-là. Et Louis Hamelin, dernièrement, a publié un livre. Il a essayé de reprendre un peu les extraits qu'il y a dans Walden pour en faire un récit autour de ce Canadien français-là. C'est un peu audacieux, mais en tout cas, ça peut être à lire. J'étais un peu mitigé, disons. Mais en tout cas, c'est ça. C'est le seul personnage à peu près qu'il y a dans Walden. Donc, c'est quand même intéressant, le bûcheron canadien-français qui supposément était capable de lire des extraits d'Homère et partager des extraits en grec avec Thoreau. Quand même particulier pour un bûcheron. Alors, on va commencer. J'ai quelques nouvelles ou lectures que j'ai faites cette semaine. Une nouvelle que j'ai vue passer, c'est concernant l'Anthropocène. On en parle beaucoup. C'est l'époque actuelle qu'on dit l'époque des hommes, où l'homme imprime sa marque à la nature, à la vie. Et l'idée d'Anthropocène, c'était pour en faire comme une espèce de période géologique, d'où le mot, souvent les périodes comme l'Éocène, les périodes géologiques, on utilise la terminologie « scène » qui veut dire « période » dans le fond. Alors, ça voudrait dire période de l'homme, mais on est dans le domaine de l'écologie, quand on parle de géologie, c'est une autre science. Et la science qui étudie ces couches géologiques-là, c'est la stratigraphie. Et les stratigraphes se sont réunis, les grands experts de cette science-là se sont réunis dernièrement. Et ils ont convenu ensemble qu'on pouvait pas dire que c'était une période géologique. En tout cas, c'était probablement un sujet qui va se poursuivre parce qu'on en parle partout de l'Anthropocène, mais là, il y a comme une impasse parce que les experts en géologie disent qu'eux ne voient pas la possibilité que ça serait pas scientifique vraiment. En tout cas, on pensait faire débuter... D'ailleurs, aussi, il y a des débats aussi au niveau de c'est quand exactement l'Anthropocène. Puis on avait eu comme un consensus qu'on ferait débuter l'Anthropocène avec l'explosion de la première bombe atomique à Hiroshima en 1945. En tout cas, c'est un débat qui continue, disons. Hier aussi, aux Amis de la Terre, on avait une projection d'un film sur l'eau. C'est une série de documentaires qui sont disponibles, mais faut payer, c'est payant. Et hier, on a eu un des épisodes. Et on avait une personne au secours qui est venue commenter un peu le film. On réalise pas, on prend l'eau pour acquis, surtout qu'au Québec, on est reconnu au Québec comme étant un des endroits au monde où on a le plus d'eau potable, de l'eau douce. Mais malgré tout, même au Québec, on a des endroits qui n'y a pas d'eau. Et on a des problèmes. L'eau est pas bien répartie. Certains endroits aussi, l'eau est polluée, est toxique. Bref, on prend l'eau pour acquis au Québec. ça nous faisait réaliser hier qu'on doit faire attention avec l'eau, que c'est même au Québec qu'on pourrait avoir des difficultés, des pénuries. Puis là, c'est sans compter à travers le monde. Justement, cette semaine, il y avait un reportage au téléjournal sur Barcelone où là, on doit rationner l'eau, qu'il y a un manque majeur d'eau potable. Et c'est un peu partout dans le monde, on dit que c'est lié au changement climatique et ça sera un des principaux enjeux de l'avenir, ça va être l'accès à l'eau qui va être un enjeu majeur dans les décennies qui viennent. Dans le deux articles que j'ai retenus dans le Devoir, il y en a un qui est sur les crevettes. Pour manger durable, la crevette de Matane est à éviter. L'espèce a subi une chute spectaculaire et sa pêche n'est plus durable dans le Saint-Laurent. Note la fourchette bleue. Les consommateurs qui souhaitent opter pour les produits de la mer durable doivent éviter la crevette nordique, soit la fameuse crevette de Matane. C'est une des recommandations de la nouvelle liste Fourchette bleue qui publie chaque année un guide des espèces marines du Saint-Laurent à consommer dans l'objectif d'éviter les pêches dommageables pour la protection de la biodiversité. La Fourchette bleue a publié lundi sa 15e liste des espèces marines issues des pêches durables du Saint-Laurent et pour la première fois, la crevette nordique a été exclue à l'instar du flétan du Groenland, puisque ces deux espèces connaissent une décroissance spectaculaire de leur biomasse. On constatait déjà depuis quelques années le déclin de la crevette nordique, mais cette année, il est devenu évident que la décroissance s'étend à toutes les zones de pêche, résume Sandra Gauthier, la directrice générale d'Exploramer, qui pilote cette initiative s'appuyant sur des consultations scientifiques et auprès de l'industrie de la pêche. Donc, c'est assez surprenant. La crevette nordique, elle est menacée. Et on dit qu'il faut éviter de consommer cette crevette-là. Autre nouvelle plutôt intéressante ou inusitée, c'était dans le Devoir de mercredi. Pêche interdite près du seul récif de corail vivant en bonne santé au pays. On a découvert dernièrement, au large des côtes de la Colombie-Britannique, un immense récif de corail. C'était toute une surprise pour les scientifiques. Tout a commencé par des informations provenant de la Première Nation locale concernant une bosse au fond de la mer où les poissons aimaient se retrouver. Cela a mené à la découverte du seul récif de corail vivant dans les eaux canadiennes du Pacifique. 3 ans plus tard, Ottawa a interdit, c'est en 2021 qu'on a découvert ce récif-là. Alors, cette année, Ottawa a interdit la pêche dans la zone où se trouve ce récif de l'Ophelia unique au monde, le seul en bonne santé au pays, afin de le protéger. L'écologiste des grands fonds, Chéris Duprise, a travaillé avec les communautés autochtones Kitasu, Ksai et Eiltsuk et a commencé à rechercher le récif corallien de l'Ophelia en 2021. Elle a fait descendre un submersible télécommandé au fond de l'océan dans le chenal Finlayson, à environ 500 km au nord de Vancouver, en Colombie-Britannique. Lors de ce qui devait être la dernière plongée de l'expédition, l'équipe a trouvé un écosystème magnifique et prospère à environ 200 mètres de profondeur. Vous allumez les projecteurs et vous vous rendez compte que vous êtes là, la première personne à voir tout ça. De magnifiques roses, violets et jaunes, des crevasses, des monticules. Et une fois que vous voyez au-delà des coraux, vous constatez qu'il y a d'autres animaux là-dessus, a raconté Mme Duprise, responsable du programme d'écologie des eaux profondes à Pêche et Océans Canada. Ensuite, on commence à voir les anguilles et les poulpes ou les poissons de roche qui entrent dans le récif corallien et en sortent. Et même lorsque nous pointons la caméra vers le haut, on peut voir les bancs de poissons au sommet. partout où on regarde, c'est la vie. Alors, c'est dans le Devoir de mercredi, quand même spectaculaire, un récif de corail au Canada. D'autres choses dans... Il y a un numéro, le dernier numéro de Sciences humaines, qui sont les gens heureux. C'est un numéro essentiellement sur la simplicité volontaire. Alors, pour ceux qui s'intéressent, c'est en kiosque présentement. Moi, j'ai une petite remarque là-dessus, c'est que on a un article sur la décroissance. Sciences humaines, c'est une revue française. Et les Français ne font pas la distinction entre la décroissance et la simplicité volontaire. C'est deux choses différentes. Et ça vient mêler un peu parce que la simplicité volontaire, c'est quelque chose qui est une pratique individuelle. C'est, on met ça, on met en place, on simplifie nos vies individuellement, puis... ce qu'on prétend, nous, c'est qu'en simplifiant nos vies, on améliore notre qualité de vie. Tandis que la décroissance, c'est plus des gestes, que je dirais, plus larges, des gestes de société. Par exemple, si une ville décide dans sa planification urbaine de réduire l'étalement urbain, mais c'est une forme de décroissance. Mais c'est faut faire attention pour ne pas confondre les deux. Puis l'article, il a tendance à faire ça. Alors, c'est comme si... parce que ce que je veux dire, c'est qu'il y a certains économistes qui disent, bien, c'est faire attention, la décroissance, ça peut avoir des effets pervers. La décroissance, bon, on ne peut pas l'appliquer dans n'importe quelle situation. En tout cas, disons qu'il n'y a pas un consensus au niveau des économistes sur la décroissance, mais si on met les deux, c'est comme si l'article disait que même la simplicité volontaire, peut-être pas une bonne idée, alors que là, je suis beaucoup plus, critique par rapport à ça. Je pense qu'en général, la simplicité volontaire peut être bonne. C'est-à-dire que l'idée derrière la simplicité volontaire, c'est des choix de valeur et c'est des choix de vie. Alors, c'est des ajustements. C'est des ajustements qui sont individuels, personnels, mais on réduit lorsqu'il y a une marge de manœuvre, on réduit notre consommation surtout on réduit la surconsommation, puis ça nous laisse une marge de manœuvre pour augmenter ailleurs en fonction des valeurs qui nous sont importantes, qui sont des valeurs qui sont pas matérielles ou des valeurs qu'on dit post-matérialistes. Mais voilà, en tout cas, cet article-là quand même est intéressant et c'est sûr aussi sur le bonheur, qu'est-ce qui fait que des sociétés sont heureuses, etc. Ça aussi, c'est lié à la simplicité volontaire. Alors, c'est le dernier, c'est en kiosque présentement, c'est le numéro de février de la revue Sciences humaines. On va prendre une petite pause musicale. Puis ensuite, je vais poursuivre avec la puissance des liens.
Une fête, chaque pluie, un apaisement. Chaque pluie
Que chaque lever de soleil soit une fête. Chaque pluie un apaisement. Que chaque
C'était la pièce Souhait pour la vie 2 de Élise Boucher, qui est accompagnée par l'octubeur vocal Sion. Élise Boucher, c'est une dame abénaki et que j'ai, disons que j'ai connue par l'entremise d'un ami. Et ça m'a donné l'idée qu'on pourrait peut-être éventuellement faire une émission sur la philosophie amérindienne, la philosophie des Premières Nations. On parle beaucoup de philosophie à l'émission, surtout la philosophie des Grecs, la philosophie de l'Antiquité, mais on n'a jamais rien fait une émission, on n'a jamais fait d'émission en tant que telle sur la philosophie autochtone. Et par l'entremise de Mme Boucher, ben, j'ai été mis en contact avec Nicole Obam-Sawin, qui est aussi une Abénaki et anthropologue. Et elle devrait être avec nous à la fin du mois de mars, la semaine prochaine, c'est le 22. La semaine suivante, on va faire une émission sur la philosophie des Premières Nations, la philosophie amérindienne. En passant, tantôt, je parlais de l'eau. La semaine prochaine, vendredi prochain, le 22 mars, c'est la Journée internationale de l'eau. Et je vous recommande d'aller voir, là, sur le site Eau Secours, ils nous donnent des données, des informations, des renseignements sur la situation de l'eau. C'est comme je vous disais, là, l'activité d'hier, le reportage que j'ai vu hier, me fait vraiment réfléchir que c'est l'enjeu principal de l'humanité qui s'en vient, c'est vraiment l'eau. On est là, déjà en pénurie d'eau un peu partout dans le monde, même au Québec. Bon, je vais poursuivre avec le livre « La puissance des liens ». Quand je parlais tantôt des valeurs post-matérialistes, ben les liens, ça fait partie des valeurs post-matérialistes. Entretenir les liens humains, les liens avec la vie, les liens avec ce qui nous motive dans la vie, ce qui est important pour nous. Alors, il y a le livre « La puissance des liens », pour ceux qui s'intéressent, c'était aux éditions L'Éconoclaste. Et il y a plusieurs auteurs connus là, qui participent à ça, dont Christophe André, dont on a parlé souvent à l'émission, Boris Cyrulnik. Puis aujourd'hui, je vous lis des extraits de la partie écrite par Mathieu Ricard, le moine bouddhiste. Alors, il dit, « Selon le bouddhisme, le concept d'interdépendance revient à dire que rien n'existe en soi et que rien ne peut être sa propre cause. Lorsqu'on dit qu'un phénomène surgit en dépendance de, on élimine ainsi les deux extrêmes conceptuels que sont le nihilisme et le réalisme matérialiste. En effet, puisque les phénomènes se surgissent, ils ne sont pas non existants, et puisqu'ils surgissent en dépendance d'une autre chose, ils ne recouvrent pas une réalité douée d'existence autonome. L'interdépendance est donc incompatible avec des notions telles que l'éternité et le néant, ainsi que la naissance et la disparition de quelque chose qui existerait en soi. Une chose ne peut surgir que si elle est reliée, conditionnée et conditionnante, coprésente et coopérante, et en transformation continuelle. L'interdépendance est intimement liée à l'impermanence des phénomènes. La compréhension de cette interdépendance universelle est la source même de l'altruisme le plus profond. En comprenant à quel point notre existence physique, notre survie, notre confort, notre santé dépendent des autres et de ce que nous fournit le monde extérieur, remèdes, nourriture, etc., il nous est facile de nous mettre à leur place, de vouloir leur bonheur, de respecter leurs aspirations et de nous sentir intimement concernés par l'accomplissement de ces aspirations. La supériorité de l'altruisme sur l'égoïsme ne repose donc pas seulement sur des valeurs morales, mais aussi sur le bon sens et sur une juste perception de la réalité. La connaissance ou la sagesse est la juste compréhension de la réalité, à savoir le fait que tous les phénomènes résultent du concours d'un nombre illimité de causes et de conditions sans cesse changeantes, comme un arc-en-ciel qui se forme lorsque le soleil brille sur un rideau de pluie et s'évanouit dès que l'une de ses conditions disparaît. Les phénomènes existent sur un mode essentiellement interdépendants et n'ont pas d'existence autonome et permanente. Et un peu plus loin, Mathieu Ricard relate un échange qu'il a eu avec le physicien Trinh Tuan Tuan. Et on a vu ça souvent, la physique nous montre que la réalité est différente de ce qu'on pense. La réalité n'est pas comme on la perçoit. Et justement, dans l'extrait que je vais vous lire du physicien, c'est Mathieu Ricard qui relate sa rencontre avec le physicien. Il explique comment, en fin de compte, tout est comme interconnecté. L'une des plus fascinantes discussions que j'ai pu avoir avec de grands physiciens comme Trinh Tuan Tuan et Nicolas Gisin concerne la correspondance entre le concept d'une interdépendance et la démonstration par la physique quantique que la réalité n'est pas constituée d'un ensemble d'éléments autonomes doués de propriétés intrinsèques qui leur appartiennent en propre, ce que les physiciens appellent des propriétés locales, mais qu'elle est globale et interdépendante, intriquée, selon l'expression consacrée. Cette intrication est la caractéristique principale de la mécanique quantique. Les phénomènes quantiques n'interagissent pas entre eux de manière séquentielle dans le temps et l'espace au sein d'une réalité limitée et localisable, tout en cessant de se coordonner au-delà d'une certaine distance. Ils sont essentiellement connectés. Déterministe convaincu, Einstein ne pouvait accepter le rôle primordial que la mécanique quantique attribuait au hasard. Dieu ne joue pas au dé, dit-il. C'est à cette fin qu'il conçut une célèbre expérience de pensée avec Boris. Excusez-moi. Avec Boris Podolsky et Nathan Rosen. On appelle cette expérience le paradoxe EPR d'après les initiales de ces trois auteurs. En 1982, Alain Aspect et son équipe effectuèrent une série d'expériences sur des paires de photons afin de tester l'effet EPR. Un atome est stimulé de manière à émettre simultanément deux photons dans des directions opposées. Le spin d'un photon est une caractéristique quantique des particules intimement liées à leurs propriétés de rotation. Or, au niveau quantique, les spins de ces photons intriqués n'ont pas de direction définie avant d'être détectés. C'est uniquement une fois qu'ils sont observés qu'une direction de leur spin est déterminée. Or, à ce moment, les photos sont séparées dans l'espace et pourtant, la direction de l'un et de l'autre indique bien les deux directions strictement opposées, comme si c'était communiqué la direction de leur spin instantanément. Il est possible de montrer expérimentalement qu'aucune information ne peut avoir été transmise et que la similarité de leur comportement ne résulte pas d'une cause commune qu'ils auraient transportée avec eux en se propageant dans l'espace et le temps. Il y a donc coordination sans communication. Cette globalité va à l'encontre des prédictions d'Einstein et contredit deux lois fondamentales. Le principe de localité, selon lequel les objets sont influencés que par leur environnement immédiat, et la loi de relativité restreinte. Si les photons se communiquaient leur spin instantanément, ils devraient le faire soit plus vite que la vitesse de la lumière déterminée comme indépassable, soit en remontant le temps. En 1998, le physicien suisse Nicolas Gisin vérifia cette hypothèse sur de longues distances. Les deux particules, aussi éloignées soient-elles l'une de l'autre, continuent à faire partie d'une même réalité globale hors de l'espace-temps. Les physiciens appellent cette situation la non-séparabilité. La nature est donc non locale. Cette constatation devrait avoir d'immenses conséquences sur la façon dont nous percevons ordinairement le monde comme étant constitué d'entités autonomes douées d'existence intrinsèque. Si les phénomènes sont intimement reliés et apparaissent en dépendance les uns avec les autres, rien n'existe en soi et par soi.
Thank you.
c'était la pièce Méditation. C'est une pièce du compositeur Massenet, interprétée par Giannetta Barry de son album Harp to Heart. Désolé pour l'éternuement, c'est le rhume. Maintenant, je vais vous lire je poursuive avec Taureau, le livre que je vous ai recommandé là, dans les dernières semaines, Taureau, Yogi des Bois. Vraiment un beau livre sur l'aspect, je dirais, spirituel de la vie de Taureau, en particulier par rapport aux spiritualités orientales, aux sagesses orientales. Taureau, Yogi des Bois, de Colette Poggi, P-O-G-G-I. Et au début de l'émission, je vous ai lu un extrait de Walden où il parlait des grands textes sacrés. C'est que à ce moment-là, en Nouvelle-Angleterre, à Concorde, Emerson et les transcendantalistes, les philosophes qui vivaient à Concorde autour de Taureau, ont eu les premiers textes anglais de la Bhagavad Gita qui venait d'être traduite, puis ils sont dans les premiers, probablement en Amérique du Nord, à avoir eu accès à ces textes-là. Alors, dans Yogi des Bois, on fait beaucoup allusion à ça, puis Taureau, comme je vous ai lu dans l'extrait, fait allusion là, à la Bhagavad Gita. Il boit à la source des textes sacrés originels. La Bhagavad Gita est son livre de chevet. Dans ces moments hors du temps, allongé sur une barque au milieu de l'étang ou sur le rivage en lisant, il imagine l'eau sacrée du Gange se mêler à celle de l'étang de Walden. Emerson et Taureau nourrissent tous deux pour ce texte fondateur de la pensée indienne un enthousiasme fabuleux. Henri David lui doit certainement de ne jamais s'être senti seul ou isolé à Walden. Hormis la faune et la flore, il y fréquente Arjuna et Krishna, conversant avec eux sur la nature de l'agir et du non-agir, sur l'accomplissement de soi dans l'existence, sur la manière d'être un yogi. Son ami Emerson fait état de la déflagration intérieure que suscita en eux ce texte. « Je devais une journée magnifique à la Bhagavad Gita. » C'était le premier des livres. C'était comme si un empire me parlait. Rien de petit ou d'indigne, mais grand, serein, cohérent, la voix d'une vieille intelligence qu'un autre âge et un autre climat avaient médité et qui avait ainsi résolu les mêmes questions que celles qui nous agitent. Il est évident que les textes anciens de Chine, d'Inde ou de Grèce ne sonnent pas pareils aux yeux de Taureau comme des lettres, ne sonnent pas aux oreilles de Taureau comme des lettres mortes, mais sont pour lui des interlocuteurs vivants. Il nourrit en eux un dialogue ininterrompu. Ses semences pleines de vie fécondent son expérience intérieure. Toutes ses voix confèrent un nouvel éclat aux prés et aux bois. Il vit à un autre niveau que la surface des choses. Le pas de côté qu'il accomplit durant 2 ans, 2 mois et 2 jours se fait ainsi dans la double autorité des Indiens d'Orient et d'Occident, puisqu'il découvre dans les années 1840 la culture amérindienne. Depuis son enfance, cette présence le fascine, il l'inspire. La manière de vivre des Indiens, on parle des Indiens d'Amérique ici, là, lui semble en effet un modèle d'harmonie avec la nature. Ils mènent une vie de simplicité en union avec le cosmos et la beauté de leur artisanat, de leur habitat, de leur chant et danse lui apparaît comme un idéal à suivre. De cette simplicité émerge la plénitude. S'il semble s'éloigner, c'est pour mieux se trouver. Dès que tu avances sur le chemin, murmure Rumi, le chemin apparaît. Or, pour Taureau, ce chemin de vie sera l'écriture qui se révèle. Parmi tous ses dons, comme sa vocation profonde, son soi dharma. C'est à sa manière C'est, à sa manière, prendre du champ, faire un pas de côté, continuer à espérer. Ensuite, on nous parle de sobriété. La vie est un trésor fragile. Sous toutes ses formes, elle nous émerveille. Plus elle nous apparaît sans apprêt, dans toute son authenticité, plus elle trouve son accomplissement et plus elle est protégée. Taureau milite pour un retour à une vie simple, à la frugalité qui, pour lui, est le creuset de la richesse et de l'harmonie intérieure. Cette pensée, devenue très influente aujourd'hui, d'autant plus importante dans notre existence déséquilibrée et dans notre société de surconsommation. Déjà au 19e siècle, Taureau réfléchissait à la place de l'humain au sein de la nature, à un rapport écologique au monde, à une forme de décroissance, même s'il n'employait pas ce mot. D'ailleurs, il incarne cette vie sainte, vêtu d'étoffes rudes, hirsute, peut-être un peu débraillé, complice de la lune et des bêtes. Il mène une vie d'élan, errant dans les bois. Je rêve parfois d'une maison plus grande et plus peuplée, bâtie dans un âge d'or et faite de matériaux solides, sans fioritures inutiles, et qui ne consistera qu'en une seule pièce, vaste salle primitive, rude et solide, où le voyageur fatigué peut se laver, manger, converser et dormir sans avoir besoin d'aller plus loin ce jour-là. Un asile qu'on serait content de trouver par une nuit de tempête. Voilà son paradis organique, frugal et accueillant. L'apprenti yogi, Taureau, se moque des palais modernes, illusoires et vains, même reçus par un roi ou une reine. Il garderait ses vieux vêtements et il ajoute « Mais si jamais on me prend à entrer dans un palais moderne, tout ce que je veux en savoir, c'est la manière d'en sortir au plus tôt. » À reculons. Dans la fable « Pankantatantra » intitulée « Les deux poissons et la grenouille », on peut lire une vérité que Taureau aurait pu faire sienne. Le bonheur que les hommes ne sauraient posséder au ciel, même au contact des dieux, ils peuvent l'avoir dans un endroit modeste. C'est la pièce Vision de l'album Vision, The Music of Hildegard von Bingen. Alors, je termine avec quelques extraits de Taureau, Yogi des Bois, sur la sobriété. Et notre ermite vit bien en toute plénitude, dans une assaise frigorifiée. Dans l'esprit du yoga, tout est intégré. En passant, le yoga, en sanskrit, ça veut dire lié. Comme on disait tantôt, les liens dans l'univers, tout est lié, mais c'est ça que ça veut dire, yoga, lié. Même les écureuils, croqueurs de noix au coin du feu. À quoi bon accumuler des biens quand on est sûr de les voir filer? À quoi on doit vivre en soi, ne dépendre que de soi, et toujours à pied d'œuvre et prêt à repartir, ne pas s'encombrer de multiples affaires? Ne pourrait-on pas y voir une prémonition des réflexions actuelles concernant la décroissance? Chacun de nous est le seigneur d'un royaume à côté duquel l'empire terrestre du tsar n'est qu'un domaine insignifiant. Henri David Thoreau avait déjà compris qu'il n'avait pas besoin de grand-chose pour être maître de lui-même, se relier à soi et à la nature en toute simplicité. Voilà, on termine avec cette réflexion sur le lien. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé des liens, quand tout était lié. Et c'est une bonne façon de terminer l'émission. La semaine prochaine, c'est la journée de l'eau. Et on va poursuivre avec les lectures qu'on a faites cette semaine. Dans deux semaines, on aura Madame Obam Sawin sur les spiritualités, la philosophie amérindienne. Puis une semaine plus tard, probablement, on aura une entrevue avec quelqu'un de Haut-Soco. On va parler de l'eau, parce que j'ai été vraiment impressionné hier par le documentaire sur l'eau. Alors là-dessus, bonne semaine et à la semaine prochaine.
Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Québec Réveil, c'est l'émission matinale de CKIA et c'est moi, Philippe Arsenault, qui ai le bonheur de passer ce moment de la journée avec vous. Actualités locales, enjeux sociaux, culture, sport, politique. Prenez le pouls de votre ville chaque matin en ma compagnie et celle de nos chroniqueurs et chroniqueuses. Faites la connaissance de gens d'ici qui travaillent sur le terrain pour faire de Québec une ville plus juste et plus belle. Québec Réveil, du lundi au vendredi, dès 7h30.
Coupures budgétaires, mises à pied, réduction de services, travail précaire, insécurité. Comment survivre à l'austérité?
Quel genre de société voulons-nous pour nos enfants, nos personnes âgées, les gens dans le besoin et pour nous-mêmes qui travaillons d'arrache-pied à servir le public? Des solutions existent.
Nous sommes le Syndicat canadien de la fonction publique et nous vous invitons à écouter l'émission D'un autre angle tous les vendredis à 11h sur les ondes de CKIA-FM.
Mondes musicaux. Venez à la rencontre d'une personnalité qui vous fera partager sa pratique artistique ou culturelle et découvrir la musique au cœur de son identité. Rendez-vous à Mondes musicaux avec Christine Borello tous les samedis à 18h sur les ondes de CKIA FM.
Bonjour.